On pourrait penser, et on le pense, que le thème de ce dimanche, c'est, comme dirait le pape François, la joie de l'Évangile. En effet, on entend dans la première lecture le prophète Zacharie qui invite à exulte de toutes tes forces, Sion, Jérusalem, pousse des cris de joie. Et on voit Jésus qui, dans sa prière intime, se tourne vers le Père et exulte, proclame la louange de Dieu. Comme je disais au début de l'introduction de cette messe, l'Eucharistie est l'action de grâce et nous avons ici, dans cette action de grâce et cette joie de l'action de grâce, quelque chose d'essentiel à la vie chrétienne. La joie est essentielle à la vie chrétienne. Déjà dans la vocation d'Israël, il y a cette vocation à la louange. C'est le nom de Judas, d'où vient le juif. C'est, suivant l'étymologie du mot qui est donné au chapitre 31 du livre de la Genèse, c'est celui qui loue. Et toute la vocation de l'homme biblique, de l'Ancien et du Nouveau Testament depuis, eh bien, c'est de rendre grâce, de louer le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on dit merci? Pourquoi est-ce qu'on rend grâce? On rend grâce à quelqu'un. On rend grâce parce qu'on n'est pas tout seul et on est au cœur de la deuxième lecture où tu vis selon la chair, c'est-à-dire selon l'intelligence, le cœur de l'homme tourné sur lui-même, lié à ses propres forces, ou alors ouvert à celui qui est plus grand, ouvert au Seigneur avec qui nous sommes appelés en dialogue. Si je ne dis pas merci, ça veut dire que je suis tout seul, autonome. Et puis j'avance avec moi, et puis à la fin, Saint-Paul dit, vous mourrez, parce que vous serez seul. Sinon, c'est cette ouverture, l'action de grâce, qui dilate notre cœur. C'est donc la vocation, je vous disais, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, puisque Saint-Paul n'arrête pas de dire « bénissez, ne maudissez pas en tout temps, en toutes circonstances ». Et c'est la marque du chrétien. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est facile? Est-ce que nous y arrivons? Comment ne pas se souvenir de ce passage merveilleux de Peggy, que vous savez, il répète dans des phrases et des pages et des pages en disant, stigmatisant les gens, vous savez, ma bonne dame, les temps sont mauvais, c'est difficile, notre monde n'a jamais été aussi comme ça et comme ça et comme ça, et on se plaint sur tout le monde, et Peggy continue en disant, au temps de Jésus c'était pareil, et puis il y avait les Romains, et puis il y avait, voilà, et puis il y avait, bon, et Jésus est arrivé, dit Peggy, il a tranché dans le vif, et il a fait le christianisme. Peggy parle à une époque où on n'a pas encore peur des ismes, hein, mais il a été le Christ. Parce que le Christ, il n'est pas celui qui se plaint, celui qui murmure, celui qui rouspète, celui qui contemple son vide, il est le Fils qui donne, qui se donne. Et quand il se donne, il donne tout le Père, comme il est en train de nous le dire. Et du coup, la joie jaillit de son cœur. Si du début à la fin de la Bible, au cœur et au cœur de la vie de l'Église, nous avons l'Eucharistie, dont je vous rappelais tout à l'heure le sens, c'est rendre grâce. Alors voyons un peu plus loin dans nos lectures. Quand est-ce que Zacharie est en train de dire « exulte de joie, pousse des cris de joie, fille d'allégresse, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi ». On pense à peu près qu'il est en train de parler juste au temps, juste après la conquête d'Alexandre le Grand vers 330, dans une époque bien sombre. Et d'ailleurs, le reste du texte nous dit bien « Ce roi fera disparaître les chars de guerre, les chevaux de combat, il brisera l'arc. » C'est encore une joie en espérance. Quand est-ce que Jésus parle de la joie et quand est-ce qu'il exulte ? Est-ce que c'est quand tout va bien, quand ses apôtres lui rapportent des bonnes nouvelles ? Si vous regardez l'évangile de saint Matthieu, c'est pas exactement ça. Et le texte est très important parce qu'en ce temps-là, ça veut dire qu'on insiste. Et c'est quoi ce temps-là ? C'est quand Jésus est en train de se lamenter sur Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm, toutes ces villes si proches, toutes ces villes qui sont ces villes là où il a vécu, qui sont fermées à Jésus. Et devant cet échec, on pourrait dire, de la prédication, devant ces difficultés, eh bien, il est dans la joie. Cela nous rappelle-t-il pas saint François d'Assise avec sa joie parfaite ? Ce n'est pas quand ta prédication va convertir la foule entière et que tu vas voir les démons tomber de la ville, etc. Ce n'est pas quand tes frères de communauté vont réussir leur carrière et qu'ils vont convertir tout le monde ou qu'ils vont même être, c'est François qui le dit, à l'université de Paris, qui était le joyau de l'époque, la réussite de l'époque. Non. C'est quand un jour, dans le froid, les difficultés, l'échec, eh bien, tu vas arriver dans un couvent, on ne va même pas te reconnaître, on va te mettre à la porte, etc. Là est la joie parfaite, frère Léon. Si, affrontant toutes ces choses, tu ne perds pas la paix, tu gardes ton âme dans la paix. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Séraphin de Sarov. Fais demeurer ton âme dans la paix et tu convertiras des multitudes. C'est notre travail de chrétien, demeurer dans cette action de grâce. Pourquoi ? Pourquoi le pouvons-nous ? Jésus donne la clé dans l'Évangile. D'où vient la joie de Jésus ? Dans le regard vers son Père. Dans cette tendresse échangée du Père envers lui et de lui envers le Père et de ce don parfait de l'un à l'autre. Et ce don, il nous le fait. Et ce don, nous en sommes dépositaires. Cette histoire de joue. C'est intéressant quand on va à la campagne. Mais même à la campagne, maintenant, on ne le voit plus, parce qu'il y a des tracteurs tout le temps. Je me souviens quand j'étais petit. Eh bien, on met un joue sur deux vaches, là, ou deux bœufs. Hein, une pièce de bois qui prend le coup, et puis on les réunit ensemble. Et puis ça démultiplie la force pour pouvoir tirer le tombereau ou la charrue ou tout ce qu'on veut derrière. Hein ? Alors que simplement, sans joue, il ne pourrait pas tenir. C'est le joue de la joie, le joue de la loi d'amour de Jésus qu'il nous donne. Mon fardeau, eh bien, prenez mon fardeau. Prenez ce fardeau qui est facile. Facile, pas si nous restons sur notre vieil homme, mais facile si nous regardons vers Jésus, regardons vers le Père. Si nous rentrons, j'allais dire, à l'intérieur pour regarder le Père qui nous comble de ses dons, en vous habite l'Esprit Saint, en vous. Si nous pouvions nous arrêter là, en vous. Ne soyez pas sous l'emprise de la chair, je ne suis pas abandonné à mes propres forces, mais ouvert. Et que notre âme et que notre joie soient un appel d'air, à la fois pour mon âme, parce que c'est la joie de Jésus qui m'est donnée, mais qu'elle le soit aussi pour beaucoup autour de nous. Voilà la mission. Voilà ce sans quoi il n'y a pas de mission. Cette transformation intérieure, parce que cet accueil du royaume de Dieu, cet accueil de la sagesse de Dieu, parce que quand il parle du Père et du Fils, c'est bien cette sagesse, Il est la sagesse qui nous est donnée et il nous la communique. Demandons, Seigneur, de bannir de notre vie toute plainte, tout repli sur nous-mêmes, pour apprendre à vivre de cette joie, de cette exultation. Et puissions-nous, dans notre prière intérieure, dans nos moments, même au sein des conflits, des difficultés, savoir nous tourner vers le Père qui est source de toute joie, renverser ainsi par la paix les ténèbres, la tristesse. Amen.